appliquez toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Is Democracy Now.
Because you all have done the work, you all got us a seat at the table. We have worked with the Biden administration to secure commitment on a $2 trillion climate plan. $2 trillion. But we're not going to stop there. We're not going to stop with a piece of paper. That's not what's going to happen. We're not going to forget about that agreement for the sake of an election, are we?
Indigenous racial justice and climate activists staged an occupation dubbed Biden Be Brave outside the Democratic National Committee headquarters in D.C. Thursday, calling on the president-elect to take immediate climate action and approve the Green New Deal. We'll hear from Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez and Congresswoman-elect Cori Bush. Then, we're being told Biden won't be able to achieve much. We must reject that idea. That's the headline of a new piece by author and organizer Astra Taylor of The Debt Collective.
As we look forward to a new Democratic administration, we need to be very clear about what power President-elect Joe Biden will have. It's absolutely within his power to erase all federal student debt using an authority called Compromise and Settlement that Congress actually granted to the Department of Education in 1965.
Then to Egypt, where the head of the leading Egyptian human rights group has been arrested in an unprecedented crackdown. We'll speak with Sharif Abdelkaddous in Cairo. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The United States confirmed 187,000 new coronavirus infections Thursday, the highest one-day total of any nation since the start of the pandemic. More than 2,000 people died across the United States Thursday, the highest one-day death toll since May. Disease modelers at the University of Washington School of Medicine now predict over 470,000 U.S. coronavirus deaths by March 1st, unless face masks are widely adopted, something they say would save 65,000 lives. The Centers for Disease Control and Prevention is calling on Americans to avoid travel over the Thanksgiving holiday, warning family get-togethers could lead to a spike in new infections and deaths. On Thursday, the White House Coronavirus Task Force held its first news briefing since August, led by Vice President Mike Pence.
This administration and our president does not support another national lockdown. And we do not support closing schools.
President Trump was notably absent from Thursday's White House briefing, as was coronavirus advisor Dr. Scott Atlas, who opposes face masks and has promoted the widely discredited herd immunity strategy and has encouraged people to rise up against public health restrictions. Mexico has become the fourth nation to pass 100,000 COVID-19 deaths, following Brazil, India, and the United States. In Honduras,
Honduras, tens of thousands of people who fled hurricanes Iota and Eta have packed overcrowded storm shelters, raising fears of a spike of new infections. Across Europe, hospitals report a shortage of both ICU beds and healthy doctors and nurses to staff them, amid signs that a second wave of COVID-19 is finally slowing due to public health measures that were reintroduced beginning in October. In South Australia, officials have lifted a strict coronavirus lockdown 3 days early after they determined a man who became infected lied to contact tracers, raising unfounded fears of a highly contagious strain of the virus. Australia's nearly eradicated COVID-19, with only a handful of cases reported in recent weeks. Meanwhile, the World Health Organization is advising doctors around the world not to administer the antiviral drug remdesivir to COVID-19 patients after concluding it has no meaningful effect on mortality or recovery times. Georgia's Republican Secretary of State said Thursday Joe Biden clearly beat Donald Trump to win Georgia's 16 Electoral College votes. Brad Raffensperger said a statewide hand recount of 5 million ballots failed to turn up any evidence supporting President Trump's conspiracy theories about a stolen election, and that he'll certify Georgia's results before today's 5 p.m. deadline. Meanwhile, South Carolina Republican Senator Lindsey Graham faces a Senate ethics investigation into his phone call with Raffensperger last Friday, when Graham allegedly asked the Secretary of State to toss out thousands of mail-in ballots. Senator Graham has denied making the request, which legal experts say would amount to felony election fraud in Georgia. The Associated Press Thursday formally called Georgia for Joe Biden, giving him 306 Electoral College votes nationwide to Trump's 232. In Delaware, President-elect Biden blasted Trump's refusal to concede his election loss.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
President Trump has called Republican leaders of Michigan's state legislature to the White House today as he continues to seek to invalidate Joe Biden's victory. Election results show Biden beat Trump in Michigan by about 157,000 votes. Late Wednesday, two Republican members of Wayne County's Board of Canvassers said in affidavits they wanted to rescind their votes to certify election results in Detroit, which has a large African-American population. Both officials, who are white, initially refused to certify the election results, but reversed their opposition after their actions sparked outrage. One of the officials, Board Chair Monica Palmer, said Thursday she reversed course a second time after receiving a call from President Trump himself. This comes as federal court filings allege 14 militia members who planned to kidnap Michigan Governor Gretchen Whitmer also planned to televise the murder of other public officials and burn down the Michigan State House. They've all been arrested. In Washington, D.C., lawyers for President Trump's reelection campaign said Thursday they've uncovered a vast conspiracy to subvert the will of U.S. voters by manufacturing votes for Joe Biden. Trump attorney, the former New York City Mayor Rudy Giuliani, led Thursday's news conference, which was held in the lobby of the Republican National Committee's headquarters on Capitol Hill.
I can prove to you that he won Pennsylvania by 300,000 votes. I can prove to you that he won Michigan by probably 50,000 votes.
Giuliani offered no proof of his claims. As he spoke, he began sweating profusely, causing dark liquid to stream down both sides of his face in an apparent cosmetic malfunction. Trump campaign attorney Sidney Powell described a vast conspiracy to fix the election involving George Soros, Hillary Clinton, Antifa, China, Cuba, and former Venezuelan President Hugo Chavez, who died in 2013. Powell has called for legislatures in swing states to disregard the popular vote in order to appoint Trump supporters to the Electoral College. Christopher Krebs, the top U.S. election security official fired by Trump this week for failing to support conspiracy theories, tweeted, "That press conference was the most dangerous 1 hour and 45 minutes of television in American history, and possibly the craziest," he said. On Thursday, Nebraska Republican Senator Ben Sasse blasted the Trump campaign's efforts, writing, quote, "Rudy and his buddies should not pressure electors to ignore their certification obligations under the statute. We're a nation of laws, not tweets." Republican Senator Mitt Romney of Utah added, quote, "It is difficult to imagine a worse, more undemocratic action by a sitting American president." The Labor Department reports 743,000 U.S. workers filed for new unemployment claims last week, a rise of about 30,000 from the previous week as coronavirus infections hit record highs from coast to coast. This comes as a new study by the Century Foundation found that unless Republican senators follow House Democrats by passing a COVID relief bill, 12 million U.S. workers will lose federal unemployment benefits by December 26. Here in New York, food banks report they've had to turn away some needy families amidst unprecedented demand. On Monday, a Harlem food bank handed out 500 turkeys to residents, including Ruth Crawford.
You have to try to relax and think of the better things, because it wasn't always like this. But this is getting to people, and it's just sad. I mean, you work all the time, and you can't go to work, or you can't work from home, so it's not easy.
The hunger relief group Feeding America warns some 54 million U.S. residents currently face food insecurity. In Washington, D.C., indigenous racial justice and climate activists staged a protest outside the Democratic National Committee headquarters Thursday, calling on President-elect Joe Biden to take immediate action on the climate crisis and approve the Green New Deal. Advocates are also calling for a corporate-free cabinet. This is climate activist John Henry of the Sunrise Movement.
2 years ago, we stood here as the Sunrise Movement, and we asked Nancy Pelosi to form a Green New Deal committee. Today, we are asking President-elect Joe Biden to form a select office on climate mobilization. Treat this crisis with the urgency it deserves. Treat it with the urgency of a mother in Lake Charles who is homeless for the second time this year, with the urgency of the California farm workers working under soot, blood red filled skies, and treat it with the urgency of the middle schoolers who made millions of calls to get you elected. If you do that, we will never forget you. And if you fail us, we will never forgive you.
After headlines, we'll hear from others who attended the protests, like Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez and Congresswoman-elect Cori Bush. Immigration rights advocates are demanding temporary protective status, or TPS, for refugees from Central American nations devastated by Hurricanes Eta and Iota. The climate crisis-fueled back-to-back hurricanes impacted millions, leaving a path of destruction that killed at least 170 people. A spokesperson for the National TPS Alliance said, quote, "There are no shelters for people to go to. Roads are underwater. Hundreds of thousands are displaced. This is what TPS was created for," they said. A federal court in September sided with the Trump administration in its efforts to end TPS for several countries, including Nicaragua and El Salvador, affecting hundreds of thousands of people living in the United States. In related news, a federal court on Wednesday blocked the Trump administration from deporting unaccompanied migrant children under a policy that allowed immigration officials to quickly deport asylum seekers arriving at the U.S.-Mexico border without due process, citing COVID-19. Some 13,000 unaccompanied children have been deported during the pandemic. This comes as immigration rights advocates are demanding the release of 28 children and their families who were placed in expedited deportation proceedings by ICE. Advocates say the families' initial asylum pleas were botched by officials, resulting in the rejection of their credible fear claims. This is Alexa, a girl who was imprisoned by ICE for 11 months.
Why did they say children have rights in this country when in this detention center children don't have rights?
No lo dan en ese centro. Porque estando
It was horrible because I was sick and my mother was sick. And the medical staff there, they did not want to help us. When we were finally released from detention, they discovered my mom had cancer. There was discrimination in this detention center. Immigration officials yelled at us. They treated us less than human. They did horrible things to us in that detention center.
On Thursday, the federal government executed Orlando Hall at the federal penitentiary in Terre Haute, Indiana. Hall is an African-American man who was sentenced to die by an all-white jury. He was the eighth person to be executed by the federal government this year. And a correction to a headline we reported Thursday. The federal government is scheduled to execute Lisa Montgomery on December 8th in the first federal execution of a woman in nearly 70 years. We misidentified her as Lisa Coleman, who was executed by the state of Texas in 2014. In Uganda, at least 37 people have been killed as protests continue over the arrest of opposition presidential candidate Bobi Wine. Some 350 people have been arrested in the capital, Kampala, since Wednesday when Wine was taken into custody. His campaign says he's been denied access to a lawyer and medical attention. The rapper-turned-politician is seeking to unseat President Yoweri Museveni, who's been in power for 36 years. And Argentina is poised to become the largest Latin American country to legalize abortion after President Alberto Fernandez sent senators a bill overturning strict anti-choice laws. On Wednesday, crowds of reproductive rights activists rallied outside the Argentine National Congress as the legislation was introduced.
We are sure that there is going to be a fight over the bill, just like we have seen in past years. We have to defend legalized abortion out in the streets because we don't trust those who are sitting in the Senate, nor lawmakers from the major parties.
Last year alone, nearly 40,000 people in Argentina were hospitalized after receiving botched abortions outside of medical clinics. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. We'll be right back.
Thank you. Bonjour, ici Tania Costa du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Bienvenue à notre balado « Changer la vie ». Un balado où on jase avec nos participants afin de vous faire découvrir notre organisme à travers leur vécu, leur expérience et leur parcours des plus fascinants.
J'aimais quand j'étais petite et que j'allais à la halte garderie pendant que ma mère était en train de faire des activités avec mes petits frères, comme la poterie ou les cours de vitrail qu'elle avait. C'est tout. J'aime beaucoup les sorties, car c'est des sorties plutôt très amusantes, car c'est des sorties comme aller pour les pommes, la tire d'érable en automne.
Moi j'ai aimé la fête de Noël parce que ils nous donnaient des chaussettes et dans les chaussettes on pouvait colorier. J'adore beaucoup dessiner. Et j'ai bien aimé les sorties. Beaucoup la cabane à sucre parce que j'adore le sirop d'érable.
Bonjour, ici Tania Costa. Bienvenue à notre épisode numéro 4. Alors, les petites voix qu'on vient d'entendre sont celles d'enfants qui viennent au Carrefour depuis quelques années, des enfants qui fréquentent l'halte garderie, qui participent à nos activités, à nos sorties également, à nos grandes fêtes et à nos événements, accompagnés de leurs parents. Alors, comme vous en doutez peutêtre, notre thématique d'aujourd'hui est la place des familles au Carrefour, notre halte garderie aussi. Donc aujourd'hui, je m'entretiens avec Claudia Valencia. Claudia est une participante depuis 2014, maman monoparentale de 5 enfants. Donc elle va nous parler un petit peu de comment elle est arrivée au Carrefour, de l'importance de la halte garderie pour les parents qui fréquentent notre organisme également. Elle va nous parler un petit peu aussi de la gratuité, de la rencontre aussi avec d'autres familles, la possibilité de tisser des liens avec des parents, de tisser des amitiés et aussi du fait que les enfants aiment beaucoup, beaucoup également fréquenter notre organisme et participer aux activités. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Bonjour, Claudia.
Bonjour, Tania.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci beaucoup.
Comment tu vas depuis les derniers mois, les dernières semaines avec les enfants à la maison?
Ça va beaucoup mieux. Au début, avec la pandémie et tout ça, on était un peu en choc. On ne savait pas quoi faire parce que j'ai 5 enfants, 4 plus jeunes. La plus grande, elle travaille, mais quand même, c'était un peu dur de ne pas sortir, de faire les activités toutes à l'intérieur.
Ben oui, avec 4 petits. Tu as survécu? Mm.
Oui, heureusement qu'on est tous bien. En général, il y a eu des petites chicanes, des choses comme ça, mais ça a réglé. Comme là, maintenant, un de mes enfants est parti à Laval, mais ça va, tout le monde va bien, merci.
Les enfants s'occupent cet été, super.
Excellent. Oui, ils sont très occupés.
Excellent, Claudia. Bon, commençons l'entrevue, Claudia. Alors, toi et moi, on se connaît depuis 2014. À l'époque, j'étais animatrice de l'atelier de couture et c'est là que je t'ai rencontrée. Tu étais une de mes participantes dans mon atelier couture. Quand je t'ai rencontrée, tu avais une petite bedaine, tu avais ton petit dernier dans le ventre. Tu es une maman, donc, à la maison. Tu as un total de 5 enfants, comme tu le disais. Tu es une participante de longue date. Tu as participé en couture quelques années, ensuite tu as fait de la poterie, du vitrail, plusieurs ateliers. Tu t'es impliquée dans de nombreux comités aussi avec moi, dont le comité d'organisation populaire. Tu as fait partie du CA, donc j'avais envie de te jaser aujourd'hui parce que tu es quelqu'un d'assez présent au Carrefour depuis de nombreuses années. Puis on avait envie d'inviter aussi quelqu'un qui est un parent, quelqu'un qui a des enfants, pour nous parler un petit peu de la place des familles au Carrefour, là, puis l'importance d'un organisme comme le nôtre là, pour les familles du quartier puis pour les mamans comme toi du quartier. Alors, premièrement, j'ai envie de te demander, à l'époque, tu avais déjà 4 petits, tu les amenais à la halte garderie quand il y avait la couture le soir, l'atelier de couture. Pourquoi tu es venue au Carrefour pour la première fois? Comment tu as découvert l'organisme?
En fait, c'est vrai, j'étais enceinte J'avais des activités comme maman à la maison. J'étais très occupée avec les enfants, mais j'ai cherché aussi des activités à l'extérieur. Alors que quand j'ai appris qu'il y avait l'atelier de couture qui était accessible aussi aux enfants, alors je pouvais amener et faire garder les enfants à l'alta garderie. J'ai pas douté deux fois, je me suis inscrite tout de suite, j'ai dit ok, ça c'est une bonne activité. J'ai une sortie, et en même temps j'apprends, j'ai mes soeurs, ma mère qui est déjà c'est la culture, alors il fallait que j'apprends un petit peu aussi à me débrouiller. Il y avait toujours des choses à réparer, des vêtements à réparer pour les enfants, alors j'ai dit ok, pourquoi pas, on va commencer par là. Et c'est une activité que les enfants aimaient aussi. Au début, c'est comme l'histoire de « Maman, moi j'ai bien avec toi ». Ils étaient tous contents qu'on allait au Carrefour.
Oui, ils étaient petits à l'époque encore. Là. Ils étaient tout jeunes. Fait que la halte garderie, c'était le fun pour eux, je pense.
C'est ça, ils jouaient. Céline aussi, elle a fait un très bon travail de deuxième maman, on dit. Déjà, mon dernier, il l'appelait maman. J'étais un peu jalouse.
Oui, en même temps, c'est bon signe, ça veut dire qu'il l'aime.
Oui, c'est ça.
Puis ça, qu'il allait seulement une fois semaine, là, il allait pas tous les jours à la halte. Hein? Je pense qu'il allait. Okay. Fait que tu sais des liens rapidement avec Céline, qui est notre animatrice à la halte garderie, c'est le fun.
Exactement, oui.
Super. J'ai envie de te demander, Claudia, là, je sais que tu habites à l'extérieur de Pointe-Saint-Charles, à l'extérieur du quartier. Est-ce que c'était le cas à l'époque aussi? Est-ce que tu habitais à l'extérieur de Pointe-Saint-Charles quand tu as commencé au Carrefour? Oui. OK, ça, c'est le fun de le partager aussi. Dans nos ateliers, on a toujours un maximum de place qui est réservée pour les gens qui habitent dans le sud-ouest, donc à l'extérieur là, du quartier. Donc, on est prioritairement un organisme là, pour les gens de Pointe-Saint-Charles, mais il y a toujours quelques places là, qui sont disponibles pour les gens qui habiteraient à l'extérieur du quartier. Donc, on a beaucoup de gens quand même du sud-ouest et de l'extérieur, même des fois plus loin à Montréal, là, qui viennent au Carrefour aussi puis qui fréquentent notre organisme. J'ai envie de revenir sur la halte. Tu disais là, que tes enfants aimaient ça venir. Quand tu as vu qu'il y avait une halte, tu as dit oh, ben, je m'inscris tout de suite. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? S'il n'y avait pas eu de halte, est-ce que tu aurais pu venir au Carrefour?
Peut-être moins souvent, là, parce que déjà, c'est difficile là, avec 4 enfants. Alors, je pense pas qu'il va avoir une gardienne qui va garder 4 enfants à chaque fois, une fois par semaine, à toutes les fois. Là, c'est
surtout qu'il y a les coûts qui viennent avec. Trouver une gardienne, là, ça coûte pas rien. Puis en plus, pour 4 enfants, ça doit être 4 fois plus cher, d'après moi.
Oui. Okay. Oui, exactement. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui m'a fait fréquenter les Carrefour. C'est une des conditions, peut-être, que ça m'a aidé à venir. Hein. Plus souvent, parce que après je me suis inscrite, peut-être j'ai participé à d'autres ateliers, c'était pas juste la couture, j'ai commencé à fréquenter beaucoup plus le Carrefour, parce qu'il y avait des activités aussi ouvertes aux enfants.
Ouais, ça c'est le fun que tu le partages, parce que déjà à l'époque, là, on en avait parlé un peu quand on a parlé de l'histoire du Carrefour, puis dans une publication Facebook qu'on a fait, mais sur l'histoire de la halte garderie, mais c'était ça aussi le rôle de la halte dès les débuts, là, il y a presque une 50aine d'années. Déjà, on voulait inviter les femmes du quartier à venir participer à nos ateliers, à venir à apprendre à lire, écrire, apprendre des ateliers variés. Puis les mamans nous disaient dans le quartier, disaient aux animateurs à l'époque, ben j'aimerais bien ça, mais j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais avec, t'sais? Fait que rapidement, ce besoin-là avait été identifié, de dire ok, c'est vrai, si on veut que les femmes participent, ben il faut installer une halte garderie, une garderie pour les enfants, pour qu'ils puissent venir avec leurs enfants. Puis on voit qu'encore aujourd'hui là, ça a son utilité. Puis plusieurs parents apprécient justement d'avoir l'halte garderie sur place, tu sais, ils sont dans leur atelier, ils savent que le petit ou la petite est juste à côté. Puis que, bon, ils viennent à leur atelier, ils repartent avec. C'est sûr que l'halte, c'est aussi pour des gens là, qui auraient des rendez-vous, qui veulent du répit. C'est ouvert à tout le monde, en fait. Là. Peu importe le besoin du parent, on s'inscrit. Mais si c'est juste des enfants, des parents qui veulent venir intégrer leurs enfants là, tranquillement pour qu'ils s'habituent à être dans une garderie, que ce soit parce qu'on a un rendez-vous ou quelconque besoin, juste du répit, besoin d'un peu de temps pour soi, là, c'est pas seulement pour les parents qui sont inscrits dans des activités. Fait que ça, c'est le fun aussi.
Oui.
Excellent. Puis, tu me disais aussi que tu as fait la poterie parent-enfant. Est-ce que tu étais encore inscrite là, avant le début de la pandémie? Tu participais les samedis à la poterie parent-enfant avec ton petit?
Oui, on s'était inscrit avec Isaac, mais il y avait le saut enfant aussi qui fréquentait l'Alta Garderie le samedi. Mm-hmm. Puis c'était des rencontres avec d'autres enfants. Comme tu dis, il y avait, c'était une activité pour toute la famille, pour tous. Mm-hmm. Puis après, on sortait et on allait quelques minutes au parc avec d'autres mamans. Et c'est ça que je pense, ça aide aussi à tisser un lien avec d'autres familles de Pointe-Saint-Charles, parce que j'ai commencé à connaître aussi d'autres lieux, d'autres places, d'autres organismes. C'est une activité qui me manque actuellement.
Ah, ouais.
C'est ça, parce que chaque samedi, c'est juste aller à Laval actuellement. C'est aller
visiter ta famille.
À Laval. Okay. Oui, actuellement, c'est ça l'activité des week-ends.
Ça vous faisait une activité familiale, la poterie enfant, tu le faisais juste avec le plus jeune. Poterie par enfant, c'est un atelier pour les parents et enfants de entre 4 et 6 ans, mais la halte garderie est disponible pour les autres, là, plus vieux ou plus jeunes aussi.
Oui, il y a eu une couple de fois même, la plus vieille, Gabriella, c'est elle qui a ramené Isaac.
OK, la grande sœur.
J'étais malade, je ne me rappelle pas, mais il y a eu une couple de fois qu'elle est venue avec. Parce que j'ai vu qu'elle aussi, elle voulait comme sortir, voir d'autres gens. Mais elle a aimé, elle m'a dit que c'était une bonne expérience. Qu'elle ne sera pas à tous les week-ends, là, parce qu'elle aime dormir plus tard, mais c'est quelque chose qu'elle a bien aimé.
De temps en temps, elle allait avec le petit frère faire l'activité.
Oui, c'est ça, parce que c'est quand même quelque chose d'artistique, puis elle aime ça.
Ouais. Oui, je pense que les parents ont beaucoup de plaisir aussi dans la poterie parents-enfants. C'est un atelier pour les petits. Oui. Les parents sont là pour accompagner, mais je pense que les parents aiment beaucoup, beaucoup ça aussi, faire la poterie. Puis tu me disais que c'est une bonne
thérapie pour nous.
C'est une bonne place pour rencontrer des familles, rencontrer des gens, tisser des liens. Fait que ça, c'est quelque chose que tu aimes au Carrefour. J'imagine que c'est le fun aussi de se retrouver seulement là, entre parents et entre enfants du même âge, parce que les réalités des gens se ressemblent, les réalités des familles.
Oui, effectivement. Oui.
Super. Puis, as-tu envie de partager un peu sur les animations sociales? Les animations sociales, on en a dans tous nos ateliers. C'est une pause peut-être d'un 15-20 minutes où on parle d'une thématique différente à chaque semaine. On en avait parlé un petit peu dans les balados précédents. Puis, dans le fond, on discute de thématiques différentes. À ce moment-là, je sais que les enfants montent à la halte garderie, donc c'est comme une petite pause pour eux. Et les parents restent à l'accueil pour jaser ensemble avec l'animateur, avec Yves. Est-ce que tu as envie de partager un petit peu comment ça se passe, ça?
En fait, c'est les temps les plus relaxants de l'atelier, parce que pendant tout l'atelier, on est en train de dire « Hey, viens ici, aide-moi, viens travailler, viens faire telle chose. » Parce que quelquefois, les enfants sont comme attirés à faire juste jouer ou faire une autre activité, sauf celui qu'on doit faire. Mais ce que j'aime de cette activité, de cette temps de minutes, je ne sais pas, ça dépend.
Oui, ça peut aller, ça peut s'étirer, bien sûr.
La prolongation, oui. Ça peut prolonger, oui. Toujours, il y a un thème, mais il y avait des fois, je ne connaissais pas sur le thème. Alors, je restais comme, j'écoute tout le monde parce que je m'informe au début. Mais on me demande toujours, c'est quoi ton opinion, je ne sais pas. Je dis, mais je préfère écouter les autres parce que je ne connais pas trop. Mm-hmm. Mais c'est ça, ce n'est pas obligatoire qu'on se manifeste ou qu'on donne vraiment une opinion. Parce que c'est libre, c'est un atelier libre. On parle si on veut, si on n'a pas envie de parler, on ne parle pas. C'est bien,
Est-ce que tu sens que ça t'a quand même poussé à prendre davantage la parole dans le groupe, à prendre ta place, justement? Tu dis, j'aime mieux être plus à l'écoute, mais est-ce que tu sens que tranquillement, t'as pris davantage la parole?
Oui, ça m'a appris aussi, comme je dis, au début, à écouter les informations, à faire une analyse du thème, peut-être... donner une réponse plus éloquente, je ne sais pas,
plus réfléchie. Tu veux, t'aimes ça prendre le temps de réfléchir.
Oui, parce que des fois, on ne connaît pas tout, on n'est pas bien informé. Mais surtout avec mes enfants, des fois, ça me manque de temps de dire, je n'écoutais pas les nouvelles. Ah, c'est arrivé ça cette semaine, je ne savais pas. Ok, c'est informatif, c'est très informatif, je veux dire. Et aussi, ça m'a aidé à réfléchir.
Est-ce que tu trouves ça pertinent? Dans le fait, moi aussi, je suis nouvellement maman. J'ai une petite fille de 3 ans, puis je sais que justement, on manque souvent de temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime, pour justement réfléchir, pour jaser avec des amis de n'importe quoi, comme quand on faisait quand on n'avait peut-être pas d'enfants. Est-ce que tu sens que ça répond à un besoin, justement, puis que ça te, c'est un peu une évasion là, du juste repas, collation, dodo, les bains, etc., puis que ça te permet un peu d'avoir un espace là, pour toi, puis de réfléchir à des thématiques peut-être que tu ne peux pas encore aborder avec tes enfants parce qu'ils sont trop jeunes? Est-ce que tu aimes ça, ce moment-là, entre adultes, tu sais, de discussion et de réflexion? Ouais.
Oui, pour moi, c'était très enrichissant parce que je ne suis pas sorteuse, hein, je ne sors pas. J'ai des amis, mais souvent, c'est par téléphone ou bien quelques minutes dans le corridor. Ouais. Parce que déjà, j'habite dans une coopérative. Je suis musulman, alors j'essaie toujours de rester comme avec les enfants, de rester en famille. Et c'est très difficile. Quelquefois, tu connais d'autres amis, mais peut-être c'est pas la même, les mêmes goûts, les mêmes activités que tes enfants. Alors c'est un peu compliqué aussi à coordonner, à faire des sorties avec d'autres familles. Mais comme j'ai participé beaucoup de fois avec les Carrefour dans les sorties, je crois que je suis sortie de ma boule là. Je me sens quand je revenais morte, très fatiguée, mais quand même c'était une activité qui c'était hors des communs.
Ouais, et puis ça c'est le fun aussi, c'est quand on fait des activités au Carrefour, c'est sûr que les grandes sorties durant l'année, on fait souvent les pommes, on fait la cabane à sucre, ça c'est priorité à nos participants, mais tous les enfants de nos participants sont invités à venir. Évidemment, il y a des tarifs plus bas pour les enfants là, des fois dépendant l'âge là pour les entrées à cabane à sucre tout ça, mais je me rappelle souvent quand on prend les inscriptions, tu sais la majorité des gens ont 1 ou 2 enfants, puis toi t'en avais 5. Fait que souvent à l'accueil, on m'a demandé mais là hein, est-ce qu'on inscrit les... Est-ce qu'on inscrit tous les enfants, Claudia? Oui, c'est ça. Peu importe si le parent en a 1 ou 5 ou 7, le parent a le droit d'amener tous ses enfants avec eux. Fait que je pense que toi, tu es un bon exemple de cet avantage-là, de dire, je peux faire une sortie avec toute ma famille au complet, tu sais, pas juste avec un ou avec le plus vieux, mais avec tout le monde, puis en profiter. Ça, c'est le fun aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Pas obligé de séparer la famille. Puis tu as participé beaucoup à des activités d'été aussi. L'été, on fait beaucoup normalement des activités, des sorties culturelles, on fait des sorties de loisirs, on a fait des voyages aussi en autobus. Souvent c'est gratuit quand c'est en autobus voyageur, souvent là, ça a un coût par exemple. Ça, est-ce que ça fait une différence pour toi justement? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'organismes que toi tu fréquentes, je sais que tu fréquentes d'autres organismes famille. Fait que si ça n'existait pas, est-ce que ton été serait différent? Mettons, si on avait... Là tu dis justement l'été on s'ennuie un peu, on va à Laval un peu, c'est ça notre sortie. J'imagine que ça doit te manquer la programmation d'été avec les enfants cette année?
Énormément, oui. Énormément, parce que comme tu dis, c'était à mon budget. Je pouvais payer même les enfants, parce que à chaque fois qu'on sort aussi, il y a les dépenses de la nourriture. Et je ne sais pas, toujours il y a des achats d'extra qui se collent après. Mais comme on est parti à Ottawa, je me fais un budget. Quand je sors, je dis, OK, on dépense ce montant-là. Au final.
Ouais.
Mais c'est ça, les enfants se sont bien amusés. Puis, comme j'ai dit, il y a d'autres familles, il y a d'autres enfants. C'était quelque chose que si je le fais avec, c'est-à-dire de ma part, ce ne serait pas possible. Je ne pense pas que ce serait de la même façon. Là, on est sorti comme le matin, on est revenu, il y a un programme, c'était bien. organisé et tout.
Ouais, je me rappelle aussi quand tu étais dans le COP cette année, le comité d'organisation populaire, puis un de nos objectifs ce printemps, c'est de faire connaître le Carrefour. On voulait faire une visite guidée par les participants du Carrefour, etc. Là, le balado a un peu remplacé ça. On s'est dit à travers le balado pour faire découvrir qui on est et ce qu'on fait. Mais je me rappelle qu'on avait dit, OK, sur quoi il faut mettre l'emphase? De quoi on a envie de parler quand on parle du Carrefour? Qu'est-ce qui est important à partager? Puis tu avais parlé de la gratuité, comme quoi ça fait une grande différence. Oui. Puis j'imagine qu'une famille avec 5 enfants, c'est encore plus important. Mais c'est oui. ça, nos sorties l'été, ben, c'est gratuit. On fournit les billets d'autobus, on paye les entrées au musée. Donc, toutes les activités sont gratuites. Les gens ont apporté évidemment leur collation, leur repas, leur lunch. Puis seulement quand on part en autobus voyageur, normalement, il y a un coût qu'on essaye de faire le plus bas possible. Je pense que même quand c'était Québec, c'était comme 10 $ par personne. Fait que c'est quand même abordable. Oui. Puis on détermine toujours le prix aussi avec nos participants. T'sais, avec le comité, on dit, OK, est-ce que ça, c'est abordable? Est-ce que ça, les gens sont capables d'économiser d'avance pour payer leur voyage cette journée-là? Fait que tu avais parlé de la gratuité, puis c'est quelque chose que des fois, on oublie. Ça fait tellement longtemps que c'est gratuit au Carrefour, les activités, les ateliers, la halte, que des fois, on n'y pense plus, mais c'est vrai que ça fait vraiment une différence dans la vie des gens là, qui ont des fois moins de moyens ou des grosses familles nombreuses aussi.
Oui, oui, c'est quelque chose qu'on devrait garder, je pense, parce qu'il y en a beaucoup de familles qui en ont besoin. Ouais. Moi, personnellement, comme je dis, ça m'aide tellement, ça me manque tellement les sorties, les enfants, revenir à la maison, rentrer très fatiguée, on s'est défoulés tous.
Oui, c'est une belle journée.
Des bons souvenirs. Oui.
Ça reviendra, on l'espère. Puis là, on va réfléchir aussi à une programmation pour cet automne, voir qu'est-ce qu'on peut faire selon les circonstances là, en place. Mais le but, c'est de pouvoir se retrouver puis se voir là, de façon sécuritaire. Fait qu'on pourra voir qu'est-ce qu'on est capable de faire là, pour les mois à venir. Pour terminer, j'ai envie de te demander un peu sur la place des femmes au Carrefour. Tu as fait partie des comités. Dans les comités, on prend des décisions, les participantes. Tu as fait partie du CA. On a beaucoup de femmes au Carrefour qui participent à la vie démocratique. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as apprécié? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais habituée à prendre des décisions, à faire partie d'un conseil d'administration, à émettre tes opinions, tout ça?
Oui. Moi, j'ai participé il y a un an, je pense, ou l'année passée. Moi, en tout cas, c'était autour d'une année. J'ai siégé au CA. C'est une belle expérience. On avait fait des évaluations, évaluations pour engager un nouveau employé. Et je me suis informée aussi beaucoup de l'organisation de comment ça fonctionne, Carrefour. Et je trouve que toujours on a écouté mon point de vue. Je voyais, on était tous différents. Il y avait toutes les âges. Il y avait des personnes plus jeunes, des plus âgées, beaucoup plus d'expérience, moins d'expérience. Moi, par exemple, j'avais aucune expérience. Ça, c'est la première fois que je me suis impliquée. C'est une belle expérience. J'ai aimé.
Puis dans le CA, je pense quand il y avait des CA, vous aviez aussi la halte garderie pour les parents, je pense. Hein? Tu pouvais demander la halte pour pouvoir assister en soirée.
Oui,
ça fait toute une différence.
Pour les soirées, ça m'a aidé à comprendre beaucoup le système du Carrefour. Même la problématique, on a vu beaucoup pourquoi continuer avec la lutte que le gouvernement, il nous écoute pour que le Carrefour reste ouvert. C'est justement à nous, les participants, de faire valoir notre parole, puis dire, écoutez, c'est un bon lieu, c'est une bonne place pour la société, pour nous tous, même pour les gens à venir. Comme je dis, mes enfants, des activités qu'ils font, qui aiment, qui vont faire bien. Il faut que le Carrefour reste ouvert. C'était en gros ça. C'était ça qui m'a poussé un peu à participer. Mais comme je dis, je reste ouvert. J'invite tout le temps. Quand je rencontre une maman, je dis, écoute, il faut que tu viennes au Carrefour. Il faut que tu voir, il y a telle activité pour ton enfant. J'essaie toujours de propager là. Les activités, la nouvelle, c'est-à-dire. Pour moi aussi, c'est ça, c'était un organisme un peu loin, comme tu dis. Mm-hmm. Et il y avait cet empêchement de la distance, mais quand même, je me suis débrouillée, puis on en fréquentait, puis je ne regrette pas. C'est une bonne expérience.
Super. J'allais te demander un mot de la fin, mais tu viens juste de le dire, tu as tout dit en parlant de la lutte et de la survie du Carrefour, puis en disant pourquoi c'est important d'avoir un organisme comme le nôtre à Pointe-Saint-Charles, puis de demeurer sur la rue Sainte dans notre bâtisse, pourquoi on est important dans le fond, puis c'est quoi la différence que ça fait dans la vie des familles. Fait qu'on invite les familles à venir au Carrefour, à venir découvrir qui on est, ce qu'on fait, à venir visiter notre halte aussi, voir de quoi ça a l'air. Tout le monde est les bienvenus là, à rentrer, puis à venir visiter aussi quand on rouvre nos portes. Hein? Pour le moment, on est encore fermé et en rénovation, mais on est vraiment un lieu d'accueil pour les familles, les mamans monoparentales comme toi. Puis je pense que c'est une bonne place pour offrir du répit aussi aux parents, leur permettre d'avoir une place, de prendre la parole, de s'impliquer aussi dans la communauté. Puis comme tu dis, les enfants apprécient aussi. Fait que c'est le fun. Merci beaucoup, Claudia Valencia. C'était un plaisir de discuter avec toi.
Merci. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.
Alors, c'est déjà la fin de notre 4e épisode. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine.
directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Este é o samba do perdão, um samba em forma de oração, um axé para o Deus pagão, um agô para o ceilão, uma oferenda a Oxalá, uma prece a Jesus.